Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire aujourd'hui et la mise au point. La rubrique suivante, magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'UNESCO aide à améliorer les moyens d'information sur l'alphabétisation en Indonésie. L'Indonésie reçoit plus de 1500 bourses de l'Union européenne. Les relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour sont très extraordinaires. Charmi nous présente maintenant le journal complet. L'UNESCO va aider à améliorer les activités des médias d'information d'alphabétisation en Indonésie. Les membres du groupe de travail des affaires interorganisations, le Conseil de la presse Christiana Chelsea Chan, qui est entré dans la délégation indonésienne à l'Assemblée générale de l'UNESCO, qui a eu lieu jusqu'au 14 novembre, a déclaré que cette question a été déclarée par le directeur général adjoint pour la communication de l'information, Frank Larou, lors de la rencontre avec le ministre de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, au siège de l'UNESCO à Paris récemment. Selon Christiana Chelsea Chan, à cette occasion, Frank Larou a exprimé sa gratitude pour le succès de l'Indonésie dans l'organisation des activités de la Journée mondiale de la liberté de la presse en mai à Jakarta, qui était assistée à environ 1300 participants de 94 pays. Lors de la réunion, Frank Larou a déclaré que l'UNESCO contribuera à améliorer les activités des médias d'information sur l'alphabétisation en Indonésie avec l'approbation du ministre de l'Éducation et de la Culture. Chelsea a dit que cette activité était destinée pour que les enseignants de l'école primaire, l'école secondaire et lycée, y compris lycée professionnel, obtiennent le débriefing et donnent la compréhension aux étudiants pour toujours vérifier la véracité des informations fournies par les différentes plateformes Internet. L'ambition de l'Indonésie de produire un successeur qualifié est le même objet de l'Union européenne que l'éducation pour promouvoir la croissance économique et réduire les inégalités sociales. Cet engagement se reflète dans la qualité de l'enseignement supérieur des universités européennes qui arrive régulièrement en tête de meilleures universités du monde selon Kiesworth University Ranking. L'Europe était souvent le principal objectif des étudiants indonésiens lorsqu'ils poursuivaient leurs études supérieures. Dans le secteur de l'éducation, la coopération entre l'Indonésie et l'Union européenne est évidente avec le nombre croissant d'étudiants indonésiens qui étudient en Europe. Pour les étudiants indonésiens qui veulent étudier ou aller en Europe, l'Union européenne donne chaque année plus de 1500 bourses pour différents niveaux d'éducation. Ça a été déclaré par l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Gerang, lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition européenne de l'enseignement supérieur 2017 à Katika Expo Center Balai Kartini, Jakarta du Sud. Le nombre d'étudiants indonésiens en Europe a augmenté. C'est une très bonne chose et nous travaillons avec des représentants des conférenciers de tous les pays qui ont assisté à l'exposition. Nous sommes intéressés à attirer des étudiants intelligents de partout dans le monde. Dans le même temps, Mme Dewi a dit que l'Union européenne soutiendra les étudiants indonésiens qui vont en Europe en donnant plus de 1500 bourses chaque année aux étudiants indonésiens qui veulent aller étudier en Europe. Pour améliorer la coopération entre l'Indonésie et l'Union européenne dans le secteur de l'éducation, le Forum économique mondial a lancé l'indice de compétitivité mondiale 2016 jusqu'à 2017 qui place l'Indonésie au 44e rang de 138 pays et la compétitivité des ressources humaines de l'Indonésie reste à la traîne par rapport aux pays voisins tels que Singapour à deuxième position, la Malaisie 25e position et la Thaïlande 34e position. Les relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour, qui existent plus de 50 ans, sont une forme de la maturité des relations entre les deux pays. Les deux pays ont réussi à surmonter divers problèmes et à faire face à des différends qui existaient jusqu'à présent. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique du ministère des Affaires étrangères, M. Desra Percaya, dans son discours prononcé lors du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour à Jakarta.
The 50th anniversary of Indonesia and Singapore diplomatic relations.
Le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour dans la vie, le 5e anniversaire d'une relation qui n'est pas interrompue et extraordinaire. Cela démontre le niveau de maturité des relations entre les deux pays. Il y aura toujours des problèmes, mais en dépit de nombreux problèmes et défis, les deux parties peuvent toujours gérer les différences judicieusement. Desra Percaya espère que les relations diplomatiques entre les deux pays peuvent continuer à être établies et plus avancées en ligne avec le développement de l'époque. Il a ajouté que l'harmonie des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour peut être interprétée et reflétée à travers une chanson de Singapour intitulée Together.
A lyrics from a Singaporean song called...
Un lyrique de la chanson singapourienne intitulée Together nous a appris à être ensemble, inspiré pour atteindre des objectifs, peu importe quoi, peu importe quand, marchant main dans la main. Laissez-nous couper la distance, atteindre objectif et briller en créant notre vision avec tout le monde à l'esprit. Très belle. La chanson Together était l'une des chansons jouées dans un concert de musique à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour. La chanson a été jouée par une collaboration entre le groupe d'ensemble de Singapour, Tang Quartet, et le pianiste de Bandung, Japawes Irene Everin. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'harmonie des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour, établie depuis 50 ans, a été démontrée par un concert de musique impliquant des artistes musicaux des deux pays. Des artistes musicaux qui ont été impliqués dans le concert étaient un groupe de musique d'ensemble de Singapour, Tang Quartet, qui a collaboré avec le pianiste de Bandung, Louis de Java, Irene Everin, et cela a été transmis par l'ambassadeur de Singapour en Indonésie, Anil Kumar Nayar, dans son discours samedi 4 novembre 2017 à Jakarta.
So, I will let them perform and show you their quality.
Je vais vous montrer leur performance de qualité aujourd'hui. Je veux terminer en disant et en exprimant mon espoir que les relations entre l'Indonésie et Singapour sera aussi harmonieuse et continuera. Le concert de musique fait partie d'une série d'événements organisés par l'ambassade de Singapour en Indonésie à Jakarta en novembre 2017. pour accueillir le 50e anniversaire de l'inauguration des relations diplomatiques entre les deux pays avec le thème Rising 5 ans. Le gouverneur de Java occidental, M. Ahmad Heriawan, a déclaré que les opportunités d'affaires et d'investissement du Japon dans la province de Java Ouest devenaient plus ouvertes après la signature de la coopération entre le gouvernement provincial de Java Ouest et la préfecture de Shizuoka. Ahmad Heriawan a déclaré dans un communiqué de presse dimanche que la signature de la coopération signée conjointement par le gouverneur de Shizuoka, Heitakawa Katsu, est un grand parapluie pour la coopération entre les deux parties, notamment dans le domaine de l'économie et les ressources humaines. Il espère, avec la signature de cette coopération, diverses coopérations dans le domaine de l'économie, des ressources humaines et de la culture peuvent être rapidement réalisées. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Bonsoir, chers amis. Vous écoutez la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Validation des données clients de télécommunications ». À partir du 31 octobre 2017, le gouvernement indonésien, par le ministère des Communications et des Technologies de l'Information, exige l'abonné de télécommunications de la carte SIM pour enregistrer la carte avec le numéro d'identification ou NIK et le numéro de carte familiale ou KK. La politique d'enregistrement est stipulée par le règlement du ministre de la Communication et de l'Informatique numéro 14 l'année 2017. La cible principale est les abonnés prépayés parce que tous les abonnés postpayés ont été enregistrés. Il y a des conséquences que les clients n'auront pas à s'inscrire avant le 28 février 2018. La carte SIM de l'ancien utilisateur sera progressivement bloquée. Ses fonctions telles que l'appel, le service de messages courts et Internet seront supprimées lentement. De plus, chaque utilisateur peut uniquement enregistrer ou réenregistrer un maximum de 3 numéros avec le même fournisseur de services ou un fournisseur de services différent. En fait, quelle est la raison pour laquelle le gouvernement indonésien applique la politique d'enregistrement de la carte SIM aux abonnés de la téléphone mobile? Sur la base du communiqué de presse du ministère des Communications et des Technologies de l'Information, l'enregistrement doit être effectué afin de fournir une protection aux consommateurs liée à l'utilisation abusive des numéros de téléphone mobile par des parties irresponsables, comme la fraude et les canulars. La politique du gouvernement doit être soutenue par le peuple de l'Indonésie et aussi le monde d'affaires. L'utilisation du numéro d'identification de la population ou NIK et le numéro de carte familiale ou KK pour enregistrer la carte SIM peut réduire l'espace disponible pour la cybercriminalité et la propagation du canular et aussi de prévenir le terrorisme. Jusqu'à présent, les terroristes opèrent souvent en profitant la clémence vérifie l'identité lors de l'enregistrement initial de la carte SIM. Avec cette politique, bien sûr, les cybercriminels, les propagateurs de canulars et les terroristes peuvent être facilement suivis. Grâce à l'identité nationale unique, le système d'opérateur cellulaire est connecté à la base de données de la population et des dossiers civils. L'identité du propriétaire d'une carte prépayée sera directement liée aux données de démographique. On souhaite que la validation des données d'abonnés de télécommunications par enregistrement de la carte SIM puisse réduire le niveau de cybercriminalité et de terrorisme et avoir un effet positif sur l'économie nationale, parce que cela facilitera le processus de transaction comme dans le secteur bancaire et la distribution de l'aide pour les pauvres. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 6 novembre 1903, Duong Van Minh a pris le pouvoir au Sud-Vietnam quelques jours après l'assassinat du président du Sud-Vietnam Ngô Đình Diệm. Duong Van Minh a dirigé des soldats vietnamiens du Sud sous le premier ministre Ngô Đình Diệm. En 1963, il est devenu le leader du Sud-Vietnam après que le premier ministre Ngô Đình Diệm a été tué dans un coup d'État. Le leadership Duong n'a duré que 2 mois, mais dans un avenir très proche, il est retourné à conduire le Sud-Vietnam avant de remettre ce pays à la puissance communiste. Le 6 novembre 1908, Chu Nha Dinh est mort à Sumedang, Java West. Chu Nha Dinh est héros national de l'Indonésie d'Aceh, qui a lutté contre les Hollandais en période de la guerre d'Aceh. Après la région 6, Mukim a été attaqué. Il a fui tandis que son mari Ibrahim Langa combattu contre les Hollandais. Ibrahim Langa est tué à Glitarum le 29 juin 1878, qui a fait Chu Nha Dinh était très en colère et a juré de détruire les Pays-Bas. Chu Nha Dinh avec son mari Tengku Umar ont combattu ensemble contre les Pays-Bas. Mais Tengku Umar est mort lors de l'attaque de Melaboh le 11 février 1899, de sorte que Chu Nha Dinh lutte seul à l'intérieur de Melaboh avec ses troupes. Chu Nha Dinh est vieux et malade, de sorte que sa troupe appelée Pang Laut a rapporté son existence à cause de la compassion. Elle a finalement été arrêtée et emmenée à Banda Aceh. Il a été traité et la maladie commence à guérir. Cependant, sa présence ajoute à l'esprit de résistance du peuple d'Aceh. Elle a également encore contacté avec les combattants d'Aceh. En conséquence, Dinh a été isolé à Sumedang. Chu Nha Dinh décédé le 6 novembre 1908 et a été enterré dans la montagne Puyuh, Sumedang, Java West. Le 6 novembre 1925, le décès de Cai Dinh, l'empereur du Vietnam. L'empereur Cai Dinh naît à Nguyen Phuc Bu Ru Dau au Vietnam le 8 octobre 1885, était le deuxième empereur Nguyen au Vietnam. Son nom à la naissance était le prince Nguyen Phuc Bu Ru Dau. Il est le fils de Dong Khan. Le 6 novembre 1925, l'empereur Cai Dinh est mort à cause de la maladie. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Serviteurs, voici donc la mise au point ayant pour le titre: l'Indonésie est prête à affronter la guerre commerciale de l'huile de palme avec l'Europe. Le gouvernement indonésien est prêt à faire face à la guerre commerciale lancée par les pays européens, comme une campagne négative contre l'huile de palme indonésienne. le ministre indonésien du commerce Enggartia Stolokita lors de la conférence indonésienne sur l'huile de palme au IPOC 2017 à Nusa Dua, Bali, vendredi dernier, a annoncé que jusqu'à présent, les problèmes de l'huile de palme brute au CPO étaient une concurrence malsaine parmi les producteurs d'huile végétale. Selon lui, l'Indonésie n'a pas d'objection aux diverses modalités et conditions fixées par l'Union européenne sur les produits d'huile de palme indonésien entrant sur le marché. Néanmoins, le gouvernement indonésien considère que les dispositions sont discriminatoires et ne s'appliquent qu'aux produits de palme alors que d'autres huiles végétales en provenance des pays européens n'y sont pas soumises. L'huile de palme est un denrée de plantation qui utilise le moins de terre et la plus verte par rapport à d'autres huiles végétales comme le tournesol ou le colza cultivé en Europe. Le ministre Enggartia Stolokita a également expliqué que même en termes de santé, leur accusation selon laquelle l'huile de palme a un impact négatif n'a pas encore été prouvée scientifiquement, contrairement au pétrole des produits animaux. Il est similaire avec l'allégation de l'utilisation du travail des enfants et le bien-être des agriculteurs. La cause des incendies de terre et de forêt n'est pas prouvée, parce que l'industrie de palmier à huile obéit très bien aux règles applicables. Ainsi, la question en cours sur l'industrie de l'huile à palmier fait partie de la guerre commerciale et de la concurrence. Le ministre Enggartia Stolokita a admis que jusqu'à présent, toutes les parties prenantes de l'industrie de palme dans le pays, le gouvernement et les entreprises ont essayé de survivre aux attaques commerciales lancées par l'Europe à travers une campagne négative sur l'industrie de la palme. Par conséquent, il a demandé à toutes les parties prenantes de l'industrie palmière à huile en Indonésie de faire face conjointement aux problèmes négatifs qui sont toujours exposés par eux. Liés aux mesures concrètes qui seront faites par le gouvernement de faire face à l'attaque contre l'industrie nationale de palmier à huile par l'Europe, le ministre Enggartia Stolokita a confirmé que sa partie était prête à arrêter l'importation de lait en poudre en provenance d'Europe qui dérange également des producteurs laitiers nationaux. En outre, il a ajouté que l'Indonésie pourrait cesser d'exporter de l'huile de palme vers l'Europe dans un mois, ce qui aura sûrement un impact sur toute leur vie, surtout en hiver. Concernant l'ouverture d'un nouveau marché de l'huile de palme en dehors de l'Europe, le ministre Enggartia Stolokita a déclaré que le gouvernement était prêt à le faire. D'autre part, le ministre de l'économie, Darmin Nasution, a déclaré que l'industrie de palmier à huile joue un rôle majeur dans la réduction de la pauvreté en Indonésie. Au total, 14 millions de familles dépendent de l'industrie de palmier à huile. En 2016, le palmier à huile et ses dérivés ont contribué une valeur à l'exportation de 17,8 milliards de dollars, soit environ 240 trillions de roupies, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Lors de la conférence indonésienne sur l'huile de palme en Indonésie à Bali, le ministre Darmin Nasution a expliqué que l'industrie de palmier à huile était différente des autres industries de plantation. Elle a un mécanisme de coopération entre les grandes entreprises et les agriculteurs pour obtenir des graines de palmier excellentes. Néanmoins, il considère que l'industrie de palmier à huile a encore des problèmes, l'un d'eux concerne la terre. Le gouvernement a trouvé une solution en rajeunissant la terre ou en replantant les plantations de palmier à huile. Il espère que l'effort peut augmenter la production de palmier à huile. En outre, le gouvernement doit renforcer et accélérer la mise en œuvre du système indonésien d'huile de palme durable qui devient la norme de palmier à huile en Indonésie. Ainsi, l'Indonésie est de plus en plus droite contre la dynamique et les problèmes dans le monde. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
L'UNESCO va aider à améliorer les activités des médias d'information d'alphabétisation en Indonésie. Les membres du groupe de travail des affaires interorganisations, le Conseil de la presse Christiana Chelsea Chan, qui est entré dans la délégation indonésienne à l'Assemblée générale de l'UNESCO, qui a eu lieu jusqu'au 14 novembre, a déclaré que cette question a été déclarée par le directeur général adjoint pour la communication de l'information, Franck Leroux, lors de la rencontre avec le ministre de l'Éducation et de la Culture, Mouhajir Effendi, au siège de l'UNESCO à Paris récemment. Selon Christiana Chelsea Chan, à cette occasion, Franck Leroux a exprimé sa gratitude pour le succès de l'UNESCO dans l'organisation des activités de la Journée mondiale de la liberté de la presse en mai à Jakarta, qui était assistée à environ 1300 participants de 94 pays. Lors de la réunion, Franck Leroux a déclaré que l'UNESCO contribuera à améliorer les activités des médias d'information sur l'alphabétisation en Indonésie avec l'approbation du ministre de l'Éducation et de la Culture. Chelsea a dit que cette activité était destinée pour que les enseignants de l'école primaire, l'école secondaire et lycée, y compris lycée professionnel, obtiennent le débriefing et donne la compréhension aux étudiants pour toujours vérifier la véracité des informations fournies par les différentes plateformes Internet. L'ambition de l'UNESCO de produire un successeur qualifié est le même objet de l'Union européenne que l'éducation pour promouvoir la croissance économique et réduire les inégalités sociales. Cet engagement se reflète dans la qualité de l'enseignement supérieur des universités européennes qui arrive régulièrement en tête de meilleures universités du monde selon Case World University Ranking. L'Europe était souvent le principal objectif des étudiants indonésiens lorsqu'ils poursuivaient leurs études supérieures. Dans le secteur de l'éducation, la coopération entre l'Indonésie et l'Union européenne est évidente avec le nombre croissant d'étudiants indonésiens qui étudient en Europe. Pour les étudiants indonésiens qui veulent étudier ou aller en Europe, l'Union européenne donne chaque année plus de 1500 bourses pour différents niveaux d'éducation. Ça a été déclaré par l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Gérard, lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition européenne de l'enseignement supérieur 2017 à Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta du Sud. Le nombre d'étudiants indonésiens en Europe a augmenté. C'est une très bonne chose et nous travaillons avec des représentants des conférenciers de tous les pays qui ont assisté à l'exposition. Nous sommes intéressés à attirer des étudiants intelligents de partout dans le monde. Dans le même temps, Mme Dewi a dit que l'Union européenne soutiendra les étudiants indonésiens qui vont en Europe en donnant plus de 1500 bourses chaque année aux étudiants indonésiens qui veulent aller étudier en Europe. Pour améliorer la coopération entre l'Indonésie et l'Union européenne dans le secteur de l'éducation, le Forum économique mondial a lancé l'indice de compétitivité mondiale 2016 jusqu'à 2017 qui place l'Indonésie au 44e rang de 138 pays et la compétitivité des ressources humaines de l'Indonésie reste à la traîne par rapport aux pays voisins, tels que Singapour, à deuxième position, la Malaisie, 25e position, et la Thaïlande, 34e position. Les relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour, qui existent plus de 50 ans, sont une forme de la maturité des relations entre les deux pays. Les deux pays ont réussi à surmonter divers problèmes et à faire face à des différends qui existaient jusqu'à présent. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique du ministère des Affaires étrangères, M. Desra Percaya, dans son discours prononcé lors du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour à Jakarta.
The 50th anniversary of Indonesia and Singapore diplomatic relations.
Le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour dans la vie, le 5e anniversaire d'une relation qui n'est pas interrompue et extraordinaire. Cela démontre le niveau de maturité des relations entre les deux pays. Il y aura toujours des problèmes, mais en dépit de nombreux problèmes et défis, les deux parties peuvent toujours gérer les différences judicieusement. De cela percaya espère les relations diplomatiques entre les deux pays peuvent continuer à être établies et plus avancées en ligne avec le développement de l'époque. Il a ajouté que l'harmonie des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour peut être interprétée et reflétée à travers une chanson de Singapour intitulée Together.
A lyrics from a Singaporean song called...
Un lyric de la chanson singapourienne intitulée Together nous a appris à être ensemble, inspirés pour atteindre des objectifs, peu importe quoi, peu importe quand, marchant main dans la main. Laissez-nous couper la distance, atteindre objectif et briller en créant notre vision avec tout le monde à l'esprit. Très belle. La chanson Together était l'une des chansons jouées dans un concert de musique à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour. La chanson a été jouée par une collaboration entre le groupe d'ensemble de Singapour, Tang Quartet, et le pianiste de Bandung, Japawes Airin Eferin. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'harmonie des relations diplomatiques entre l'Indonésie et Singapour, établie depuis 50 ans, a été démontrée par un concert de musique impliquant des artistes musicaux des deux pays. Des artistes musicaux qui ont été impliqués dans le concert étaient un groupe de musique d'ensemble de Singapour, Tang Quartet, qui a collaboré avec le pianiste de Bandung, Louis de Java, Airin Eferin, et cela a été transmis par l'ambassadeur de Singapour en Indonésie, Anil Kumar Nayar, dans son discours samedi 4 novembre 2017 à Jakarta.
So, I will let them perform and show you their quality.
Je vais vous montrer leur performance de qualité aujourd'hui. Je veux terminer en disant et en exprimant mon espoir que les relations entre l'Indonésie et Singapour sera aussi harmonieuse et continuera. Le concert de musique fait partie d'une série d'événements organisés par l'ambassade de Singapour en Indonésie à Jakarta en novembre 2017 pour accueillir le 50e anniversaire de l'inauguration des relations diplomatiques entre les deux pays avec le thème Rising 5 ans. Le gouverneur de Java Occidental, M. Ahmad Heriawan, a déclaré que les opportunités d'affaires et d'investissement du Japon dans la province de Java West devenaient plus ouvertes après la signature de la coopération entre le gouvernement provincial de Java West et la préfecture de Shizuoka. Ahmad Heriawan a déclaré dans un communiqué de presse dimanche que la signature de la coopération signée conjointement par le gouverneur de Shizuoka, Heita Kawakatsu, est un grand parapluie pour la coopération entre les deux parties, notamment dans le domaine de l'économie et les ressources humaines. Il espère, avec la signature de cette coopération, diverses coopérations dans le domaine de l'économie, des ressources humaines et de la culture peuvent être rapidement réalisées. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous rendre à la baignette de Yehsani. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de La Voix de l'Indonésie, le service international de RRI, soit sur les zones courtes, soit vous pouvez nous écouter sur www.voi.co.id. Bien que Bali soit célèbre pour ses belles plages, ne passez pas votre temps pour visiter seulement les belles plages à Bali. Car à Bali, il y a également d'autres sites touristiques attrayants, dont l'un était le lieu de baignade de Yehsani. La piscine de Yesani est située dans le village de Sani, sous-communauté Kabutambahan, à environ 17 km à l'est de Singaraja, Bali. Depuis 1930, ce site rustique est déjà devenu célèbre. Yesani signifie air sani ou l'eau de Sani. Ye en baliné signifie air ou l'eau. Ce qui distingue la piscine air sani avec d'autres piscines à Bali est l'eau très naturelle. L'eau dans la piscine d'air sani provient de rivières souterraines du lac Batur, communément appelé Ye Kelebutan. L'eau de ces sources d'eau est très souvent utilisée pour des cérémonies religieuses de Langdu. Ces sources d'eau apparaissent au sud de la piscine pour adultes, exactement sous les frangipanières adjacentes à un temple pour adorer le Seigneur Vishnu. La piscine de Yesani se compose de deux pièces, une piscine pour les adultes en raison de sa profondeur atteint 1,5 m et l'autre piscine pour les enfants. La baignade de Yesani est tout à fait unique, car l'eau n'est pas salée, bien que son emplacement soit très proche de la plage de Lovina. En outre, il y a un mythe qui dit que si un jeune couple se baigne dans la piscine de Yesani, leur relation sera plus étroite. Et le mythe est toujours cru jusqu'à maintenant. En raison de son emplacement qui est à proximité de la place de Lovina, puis lors de la visite Yesani, vous pouvez également vous rendre à cette place. En outre, dans la zone de Yesani, il y a aussi un lieu de pèlerinage pour les catholiques, à savoir la grotte Maria à Yesani. Pour visiter cette grotte, vous passez juste un petit pont et environ 20 mètres sur la droite. Il y a le poteau indicateur Pakraman Banjar Yesani. Et non loin de là, la grotte de Maria Yesani est déjà visible. Pour entrer et voyager à Yesani, vous ne payez que le prix d'entrée de 10 000 rupiah pour les adultes et 5 000 rupiah pour les enfants. Serviteur, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler indonésien. Le sujet pour aujourd'hui est merayakan ulang tahun ou en français célébrer l'anniversaire. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Merayakan. Merayakan en français célébrer. Ulang tahun. Ulang tahun. En français, anniversaire. Besok, besok. En français, demain. Senang, senang. En français, heureux pour masculin et heureuse pour féminin. Ingat, ingat. En français, se rappeler. Bersama-sama, bersama-sama. En français, ensemble. Teman. Teman, en français, ami. Keluarga, keluarga, en français famille. Mengundang, mengundang, en français invité. Banyak, banyak, en français beaucoup. Beberapa, beberapa, en français quelque. Mulai, mulai, en français à partir. Jam 7 malam, jam 7 malam, en français à 7 heures du soir. Datang, datang, en français arriver. Rumah, rumah, en français maison. Membawa, membawa, en français apporter. Kue ulang tahun, en français gâteau d'anniversaire. Serviteur, voici la conversation entre Nita A et Nova B au bureau. A. Besok bukankah hari ulang tahun kamu? Je répète. Besok bukankah hari ulang tahun kamu? En français. Demain est ton anniversaire, n'est-ce pas? B. Betul. Betul. En français. Oui. B. Senang sekali kamu ingat ulang tahun saya. Senang sekali kamu ingat ulang tahun saya. En français, je suis heureuse que vous vous souvenez de mon anniversaire. A. Bagaimana kamu merayakan ulang tahun kamu? Bagaimana kamu merayakan ulang tahun kamu? En français, comment vas-tu célébrer ton anniversaire? B. Saya mau merayakan bersama-sama dengan teman dan keluarga. Je répète. Saya mau merayakan bersama-sama dengan teman dan keluarga. En français, je veux célébrer ensemble avec mes amis et ma famille. A. Apakah kamu mengundang banyak teman? Apakah kamu mengundang banyak teman? En français, invitez-vous beaucoup d'amis? B. Saya hanya mengundang beberapa teman baik. Saya hanya mengundang beberapa teman baik. En français, j'invite seulement quelques bons amis. A. Jam berapa pesta ulang tahun kamu dimulai? Je répète. Jam berapa pesta ulang tahun kamu dimulai? En français, à quelle heure commence ta fête d'anniversaire? B. Jam 7 malam. Jam 7 malam. En français, à 7 heures du soir. A. Baiklah, besok saya akan datang ke rumah kamu. Baiklah, besok saya akan datang ke rumah kamu. En français, eh bien, demain je viendrai chez toi. A. Saya akan membawa kue ulang tahun. Je répète, saya akan membawa kue ulang tahun. En français, je vais apporter un gâteau d'anniversaire. B. Terima kasih atas perhatian kamu. Terima kasih atas perhatian kamu. En français, merci pour votre attention. A. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. En français, à demain. Serviteur, c'était apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie, bonsoir. Voici le magazine de Pelangi Nada ou magazine de musique. Pour cette édition, on vous présente des chansons de rythme de Keroncong. Et pour cette sens, on vous introduit un chanteur M. Rifani. Chers amis, pour animer notre rencontre, allez d'abord écouter la chanson de M. Rifani intitulée Rindu Lukisan. Bonne écoute.
Rindu lukisan. rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu bahasa? Mengapa mendusta seribu kata? Dan merindukan kumbang. Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan. Suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu kata? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan.
Sarjami la voix de l'Indonésie, cette chanson, Roni Lukisan, décrit le sentiment de manque entre les jeunes couples qui n'est pas facilement exprimé et simplement stocké dans la foi. Cette chanson, composée par le grand compositeur indonésien Ismail Marzuki, contient des mots au sens figuré dans la plupart de ses poèmes. La chanson est plus parfaite avec la beauté des voix appartenant de M. Rifani. Bien que ce soit une vieille chanson, mais elle est toujours agréable à écouter. Rindu Lukisan est une chanson très populaire pour tout le temps. Cette chanson est non seulement connue et chantée par des musiciens et des chanteurs indonésiens, mais aussi aux pays étrangers. En 1981, la chanson a été chantée par le chanteur rocker Guitarolis, ainsi que comme animation dans le vidéoclip des fragments du film de Kereta Api Terakhir ou Le Dernier Train, le film qui raconte la guerre d'indépendance indonésienne aux années 40. Eh bien, chers amis, allez encore écouter la chanson suivante de Emre Vani intitulée Ariati. Bonne écoute.
Satu malam.
Sarzami, voilà une des chansons de Ismaël Marzouki qui reste populaire jusqu'à présent. Bien qu'elle ait été créée aux années 80, elle raconte l'histoire d'admiration d'un homme à une femme qui n'a pas été révélée. Outre, le sentiment était si fort qu'il remporte dans un rêve, mais il est si heureux, bien que tout soit dans un rêve. Outre de M. Rivani qui apporte cette chanson avec le genre crunchon, beaucoup de musiciens chantent cette chanson avec le genre pop. En dépit d'un fort caractère vocal et à peu près de chanter beaucoup le rythme de crunchon, mais on connaît moins d'informations sur la vie et la carrière du chanteur M. Rivani. Voilà le magazine de Pelangi Nada avec le chanteur M. Rivani, du genre crunchon. Merci de votre attention et fidélité. Et avant de terminer notre rencontre, écoutez d'abord la dernière chanson de M. Rivani intitulée Indonesia Pusaka. Bonne écoute et au revoir.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.